Et puis après, la banalisation, c'est quand même bien là un peu un point difficile, parce que la loi, elle est là, et après, ça part bien autrement que ce qu'on aurait pensé au départ. Donc c'est indépendant de la loi, ça.
Je pense qu'on a un petit peu tous dans Petit Four Sevrin qui doit faire tout tout seul, mais je pense que c'est un peu plus subtil.
Et toujours sur cette question de dépénalisation, banalisation, moi il me semble que ceux qui mettent l'accent sur le risque de banalisation, c'est une façon de vouloir empêcher la dépénalisation et de refuser d'une certaine façon le pouvoir de discernement et de décision à l'individu. Est-ce qu'on peut éviter ça?
Les deux doigts qui se tiennent.
Mais, non mais d'abord en fait j'espère que oui tous ces concepts philosophiques étaient malgré tout éclairants, même si je suis contente qu'il y en avait beaucoup côte à côte et que en fait c'est un travail extrêmement fin de distinction. Et en même temps l'idée que j'avais derrière la tête d'utiliser la philosophie comme méthode, c'était aussi d'établir un peu cette carte de ce qu'il y a en jeu pour après voir comment est-ce qu'on les articule. Et je pense que c'est justement je regrette de pas être moi-même à Belfort pour assister aux autres conférences et voir comment chacun met en jeu. Ah ben sur le site, oui. Très bien. J'irai voir le site pour poursuivre cette question. Et ce qui est difficile en philosophie, je trouve, et en même temps passionnant, pardon, je suis partie sur la deuxième question, donc le premier, mais qui rejoint les autres aussi. Ce qui est difficile et en même temps passionnant, c'est que chaque concept prend un sens différent, selon l'auteur, mais aussi selon le contexte. Et donc, évidemment, cette question d'autonomie, ou cette question de tolérance, ou cette question de banalisation, elle change de sens selon qui l'emploie, à quel moment, contre quelle position ou argument. La première chose qui me venait en entendant cette question sur l'autonomie, c'était le fait de réaliser que donc autonome, c'est le fait de pouvoir se donner des lois, mais c'est aussi celui qui a en lui-même son principe, du coup, son principe de mouvement. Ce que l'on peut comprendre aussi à un plan extrêmement vital. Bien sûr qu'en tant qu'être vivant, en tant qu'individu singulier, on est autonome par le simple fait déjà qu'on peut identifier notre vie singulière. Donc peut-être que c'est intéressant de repartir aussi de ce premier élément de l'autonomie au plan du vivant, justement. L'autonomie du corps qui se meut, qui évolue, qui a un parcours de vie qui lui est propre. Après, ce que je tâchais de distinguer, c'était l'autonomie politique telle que la définissait Rousseau, qui ne peut pas se penser indépendamment de la société et donc du fait d'obéir avec d'autres. Ou l'autonomie, c'est le fait d'obéir aux lois que l'on fait donner ensemble, selon la volonté générale. Et donc, ça n'est pas Petit Four Sevrin qui fait ce qu'il veut tout seul, mais ce sont tous les citoyens qui, certes, ont fait cet effort de discernement en leur fort intérieur, mais obéissent à des lois qui valent pour tous. Donc ça, c'était l'autonomie dans le premier sens, qui n'est pas du tout une autonomie solitaire, mais qui est au contraire une autonomie qui n'est possible que dans la société. Et c'est tout l'enjeu de Rousseau de montrer que le fait de passer d'un état, alors que lui, il imagine, mais qui lui permet de comprendre des choses, d'un état de nature à un état de société, c'est la possibilité de devenir libre, de devenir autonome. Où là, l'autonomie n'est pas première, mais elle est possible parce qu'on se donne des lois communes, parce qu'on décide de vivre ensemble. Mais ensuite, l'autonomie à laquelle je revenais, c'est une autonomie individuelle. Je décide de ma vie et je fais ce que je veux apparemment tout seul, c'est-à-dire que j'ai le sentiment, l'impression de décider seul de ce que je fais de ma vie. Sauf que c'est là que cette autonomie devient paradoxale, parce qu'en fait, non, en tant qu'homme, je ne peux pas faire seul ce que je décide de faire. Et notamment pour ces questions qui touchent au vivant et qui mobilisent des dispositifs, des technologies, mais aussi simplement l'action de l'autre. Et sa présence. Donc, cette autonomie qui se veut individuelle et solitaire, elle est paradoxale et peut-être pas réalisable. Et en plus, d'un point de vue éthique et peut-être de nouveau politique, elle est limitée puisque on voit qu'elle est très faible et très lourde à porter si on ne va pas chercher des ressources d'accompagnement, d'interpellation. D'enrichissement pour le discernement qui nous permet d'avoir une autonomie juste et éthiquement fondée. Voilà ce que je dirais sur l'autonomie. Sur la question de la tolérance et de la banalisation, alors du coup je crois qu'il y avait deux questions dans votre question. C'est d'abord, est-ce qu'on peut distinguer tolérance et banalisation? Et peut-être que c'est proche, mais que ça ne fait pas référence au même processus. Ça ne désigne pas le même objet. La tolérance, c'est le fait d'accepter un acte, mais que l'on ne considère pas comme bon. Donc effectivement, c'est Simone Veil qui dit on tolère l'avortement dans des situations d'exception. Donc c'est montrer que peut-être que la tolérance c'est justement un concept intéressant qui permet de signaler qu'on autorise sans promouvoir. Et en même temps, attention, la tolérance dans certains contextes, elle peut aussi être proche de l'indifférence. Et c'est là que je trouve aussi intéressant de re-questionner ce système libéral des lois qui autorisent et qui ne sont qu'un cadre assez neutre, enfin en tout cas apparemment neutre, parce que c'est pas toujours le cas, de droit individuel, c'est aussi une forme d'indifférence et de décharge de l'État par rapport à des lois prescriptives que l'on va se donner ensemble. Et la banalisation, ça viserait un autre processus au sens où c'est plutôt comment un acte devient ordinaire. Est-ce que ça c'est indépendant de la loi? C'était la deuxième partie de votre question. Ben, c'est indépendant de la loi si on reste de nouveau dans un système ultra-libéral qui se décharge des conséquences. Mais ça je crois que c'est pas possible parce que même au niveau de la société, les actes des individus ils ont des conséquences qui concernent l'ensemble de la société aussi. Donc je pense que si notre société crois que l'application et la valeur surtout que les actes prennent une fois qu'on a légiféré ne dépend plus des lois, c'est aveuglé. Et c'est pour ça que ça me semble particulièrement important d'intégrer l'application de la loi, mais aussi l'interprétation de la loi et le tout processus d'accompagnement et de discernement du sens qu'on donne aux actes, de l'intégrer au processus législatif même. Donc de le rendre dépendant de cette activité de se donner des lois. Pardon, c'est pas très clair. Mais en tout cas, peut-être qu'on peut distinguer le sens restrictif d'une loi. On constitue une loi, c'est l'activité législative de l'Assemblée nationale au terme d'un débat. Et un sens plus général de se donner des lois au sens de l'autonomie. Et se donner des lois pour une société, ça implique de débattre, d'éviter une loi avec un texte, mais aussi de l'assumer, de l'appliquer, de lui donner un sens. Il me semble que ce serait intéressant de donner cet autre sens à l'activité de faire loi. Et sur le et du coup sur enfin la possibilité de réaffirmer cette capacité, ce droit de discerner, je trouvais que c'était assez intéressant de voir comment Foucault insiste sur le fait que ce gouvernement ou cette politique qui s'intéresse au faire vivre fait disparaître peu à peu la question de la mort, ne l'interroge plus. Et comment, du coup, ces lois bioéthiques, en tant qu'elles font débat, permettent de réinterroger le sens de cet événement crucial de notre existence humaine, mais permettent de réinterroger de la même manière plein d'actes. Et donc je trouve que c'est... Pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, c'est pas seulement un droit et une possibilité, mais c'est peut-être même une opportunité. C'est-à-dire le fait que la loi autorise certains actes nous redonne la capacité, nous redonne une opportunité, mais une opportunité pas au sens d'opportuniste, au sens d'une opportunité à saisir pour réinterroger toute notre existence et notre manière de vivre par rapport à une loi simplement culpabilisatrice ou prescriptive. Donc oui, moi je crois que c'est à défendre. Après, c'est voilà, qu'est-ce qu'on autorise, comment, mais j'étais très embêtée de traiter ça en même temps, parce que je trouve que c'est extrêmement difficile et très vertigineux d'avoir à réfléchir sur ces questions. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou apports ou remarques.
Joël.
Oui, par rapport à ce que vous venez.
Je vous dis sur la loi sur la famille, c'est le pouvoir qui est donné totalement au sein. Le malade peut demander à mourir, dire arrêter parce que je souffre, parce que j'en ai assez de maladies, notamment si je suis à l'hôpital, mais le malade n'a pas le pouvoir de déclencher la décision du médecin. C'est le médecin qui l'a totalement. Donc ça, c'est quelque chose... je crois que la DMD conteste, et la DMD, elle souhaite que l'individu, qu'on réponde à sa demande. C'est dans un cadre, bien sûr, mais quand même que la demande de l'individu soit plus prise en compte.
C'est une question, mais... Ouais, non, je croyais juste qu'il y avait une question, mais je retiens.
Oui, par rapport à ce que vous avez expliqué, est-ce que le concept d'autonomie n'est pas dépassé? Enfin, le vocable, est-ce que c'est opérationnel d'utiliser ce mot? Est-ce qu'il vaut mieux pas penser en indépendance et interdépendance? Parce que, effectivement, pour reprendre la citation que vous avez mise sur le tableau de M. Goffi sur le suicide, le suicide de quelqu'un, forcément, ça touche tout le monde. Donc, c'est pas vrai que quand on fait un acte qu'on décide de faire par soi-même, etc., que c'est un acte autonome. C'est un acte qui influe sur un ensemble de personnes ou de situations environnantes, et donc ça montre bien que on est tous interdépendants. Voilà, donc c'est le mot autonomie qui m'a un petit peu... je pensais qu'on avait un peu dépassé ça, mais pas dépassé. Je sais pas si c'est vraiment aujourd'hui... hyper pertinent d'employer ce terme, ou alors je ne comprends pas tout ce qu'on veut dire derrière.
Oui. Merci.
Une autre question? Il y en a deux. Oui, Marie-Claire.
Mais tout à l'heure, vous avez employé le mot vertigineux et c'est quelque chose que je ressens à la fin de cette belle exposée. On se pose des questions en ce moment au sujet de ces lois bioéthiques sur des actes bien précis et on voit bien effectivement que derrière tout ça, il y a quelle humanité on veut pour ce qu'il y a devant nous. Et je me demande, est-ce que dans l'histoire de l'humanité, il y a déjà eu des moments aussi cruciaux que celui-là, où les enjeux étaient aussi à risque, c'est dire. Et pourquoi je m'intéresse comme ça, c'est parce que si jamais il y a eu d'autres moments aussi forts, quelle leçon on pourrait en tirer pour ce qui se passe maintenant.
Oui. merci, le vertige remonte dans
mes écrans. Je pense que quand on embrasse la conscience ancienne.
Non, c'est, ce sont des questions que je me pose aussi. Peut-être du coup je reviens dans l'ordre sur la question du pouvoir aux médecins. Ouais, je trouve qu'il y a, en lisant tous ces témoignages, tous ces rapports de pratique, prendre en compte quand même l'ambiguïté de ce pouvoir responsabilité de nouveau, qui est aussi très lourd, et très concrètement voir aussi qu'en fait, déjà de fait dans les hôpitaux, c'est jamais un médecin. Alors bien sûr, ça reste du côté de l'autorité médicale, mais qu'il y a déjà beaucoup de groupes qui essayent d'intégrer les familles. Et en fait, je trouve que c'est quand même... Enfin non, je sais pas, dites-moi si...
C'est un peu choquant quand même d'aliéner comme ça la liberté de l'individu, d'être obligé de supporter des soins dont on n'a pas envie.
Oui, oui.
Quand même, hein.
Ah, mais bien sûr, ça je...
Quand même. Je sens que tout de même le personnel médical est peut-être plus attentif. Déjà, ce souci de prendre des décisions en équipe, je pense. Alors, on a tous, évidemment, des exemples plus ou moins proches de décisions comme ça, qui ont été prises ou pas prises au moment où on aurait souhaité qu'elles le soient. Mais il me semble que dans l'air du temps, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Hein, je sais pas. Et justement, j'en profite un petit peu pour vous demander si vous n'avez pas l'impression que l'acte même de légiférer, plutôt que l'expression d'une volonté commune, générale, soucieuse du bien-être commun, n'est pas de plus en plus un acte qui est à la suite, à la remorque de l'évolution des mœurs. Et je me demande si ce n'est pas là que le vrai problème, parce que on dit que gouverner c'est prévoir, légiférer c'est aussi prévoir, et là on a l'impression que on est un peu à la traîne, à la remorque de l'évolution des mœurs. J'écoutais ce matin à la radio l'exemple de cette famille, des parents de deux jumelles qui sont nées aux États-Unis par une mère porteuse. Donc ce sont des enfants qui n'ont aucune existence légale en France, puisque la GPA n'est pas reconnue par la loi. Mais par ailleurs, les parents portent le problème devant les tribunaux en faisant pression finalement. Donc voilà, je reviens à la remarque précédente. Est-ce que l'acte de légiférer, pardon, n'est pas un peu à la remorque de l'évolution des mœurs, et finalement, plutôt que de légiférer, est-ce qu'on ne se contente pas de constater, voilà, c'est comme ça. D'où cette indifférence, presque, cette neutralité, ce flou qui laisse les choses aller. Enfin, ça, c'est une question.
Oui, c'est vrai, j'allais...
en ouvrant le début de votre remarque, j'allais rebondir là-dessus en disant en fait toute cette évolution et le fait que ce soit choquant, c'est aussi parce que la loi arrive comme trop tard et que du coup oui j'entends bah oui en fait c'est choquant que le médecin ou l'équipe médicale ait à prendre des décisions alors qu'on attendait autre chose. Et que peut-être plus loin encore, le médecin ou l'équipe médicale soit déjà en mesure de faire de graves dérives en fait. Et que la loi, elle vient là pour autoriser, mais aussi pour encadrer des pratiques qui existent déjà. Je suis d'accord. Et en même temps, bah, c'était la même configuration avec cette question sur l'avortement, si on reprend cette loi qui a beaucoup marqué les esprits. Et du coup, je me dis que à la fois le fait que la loi arrive parce que des pratiques existent déjà, c'est ça aussi qui a donné force à la loi et qui lui a permis de convaincre toute une partie de la société. Mais par contre, pour moi, ce qui est décevant plutôt, c'est le fait que Simone Veil disait on ne peut pas laisser les femmes qui vivent ces situations dans une telle détresse. Il nous faut une loi pour pouvoir les accompagner. Sauf que si on regarde aujourd'hui, bon, il y a quand même des structures, des dispositifs qui existent, mais on aimerait que ça soit tellement plus en fait, pour que l'avortement ne soit pas pratiqué de cette façon. Ouais. Et donc peut-être que je crois que la part de prévention dans la loi, elle ne se fait peut-être pas dans le texte qui anticiperait quelque chose, parce que là il pourrait y avoir aussi quelque chose de problématique si la loi... Mais peut-être qu'elle peut anticiper plutôt la manière dont la loi va être justement appliquée, comprise, interprétée et inscrite pour une amélioration véritable de la société qui attend une loi à cause de cette situation problématique. Avec la difficulté aussi de ne pas tomber dans une société où on fait des lois à toutes les crises qui là aussi dévalue la loi en un certain sens. Et du coup, il me semble que pour revenir sur ce que vous disiez, peut-être que le pouvoir choquant ou problématique du médecin, il peut être renversé en un pouvoir responsable et bénéfique. Si on accepte cette relation de confiance qui peut se jouer et que la loi autoriserait, et là je trouve que le témoignage de ce médecin belge est particulièrement marquant aussi parce que je crois que la première euthanasie à laquelle il a répondu à la demande, c'était un prêtre qui est venu le voir avec toutes ses convictions et donc ses difficultés à discerner, lui-même est à une foi chrétienne, et il témoigne vraiment du fait que chacun des accompagnements est une relation de confiance longue. Et donc là, on se dit aussi que l'argument qui consiste à dire que dépénaliser va banaliser est une illusion quand on sait la lourdeur de l'acte en lui-même, et peut-être que le sens même de l'acte rend difficile cela. Et que la dérive, elle vient plutôt des usages politiques qu'on peut en faire et qu'on en a déjà fait, parce qu'en fait, ce qui a fait peur aussi dans l'euthanasie, c'est le fait que les mesures euthanasiques ont été utilisées par le régime nazi, mais par d'autres régimes aussi. Mais peut-être que ça, c'est une autre question qui relève d'autres dynamiques sociales et politiques. Donc peut-être que l'enjeu dans le débat, c'est aussi de neutraliser ce qui vient contaminer ou effrayer dans cette notion. Et du coup, il me semble que ça peut être lié à cette question de vertige, malgré tout, avant de revenir à l'autonomie. Je reviens à Sartre, du coup, que j'ai évoqué en mode TGV. Parce que chez lui, le vertige, c'est précisément la sensation de la liberté. J'éprouve fondamentalement ma liberté quand je suis au bord de la falaise et que je sais que je peux sauter. Et là, c'est vertigineux parce que je sais que j'ai en moi cette capacité de me déterminer à sauter
ou à rester sur le bord de la falaise. Et donc ce vertige, je crois qu'il est il est à la fois effrayant et à la fois bon si on accepte de le regarder en face. Et de la même manière que la loi qui dépénalise peut être une opportunité bénéfique pour interroger des actes, le vertige face à ces lois peut être une opportunité pour ressaisir la liberté que nous avons à discerner et à agir de telle ou telle façon pour nous et pour toute l'humanité si on considère que, bah oui, les actes que l'on pose engagent l'humanité. Après, je me méfie un petit peu de... C'est ce que je disais aussi sur le caractère de nouveauté, sur cette manière de rendre un moment historique tout à fait crucial dans l'histoire de l'humanité, même si ça n'enlève rien à l'importance du moment qu'on est en train de vivre. Mais peut-être que ça permet d'une part de prendre en compte le fait que, en fait, chacun de nos actes peut avoir cette dimension cruciale, et donc revenir à une échelle beaucoup plus régulière, en fait, c'est pas seulement le moment de la législation qui est si crucial, et qui fait que, une fois qu'il est passé, on peut aller vaquer à nos occupations comme le reste du temps de l'histoire. Non, c'est chacun de nos actes et chacune de nos conduites qui engage toute l'humanité, même si c'est un peu pesant dit comme ça. Et en même temps, considérer aussi que, dans l'histoire, il y a beaucoup de moments cruciaux et de révolutions. Et je trouve que, par exemple, le moment où on se demande où l'Église interdit la dissection des corps, pour les progrès de la médecine, mais aussi dans l'art, aujourd'hui, on voit que cette question sous un angle complètement différent. Et du coup, oui, ça peut nous permettre aujourd'hui de prendre en compte ce débat d'une autre façon. Sans le banaliser, en disant, finalement, ce qui a fait peur à un moment donné à des hommes, la dissection, aujourd'hui, on l'a bien admis, bien encadré, même si ça serait de nouveau à interroger. Mais se dire que oui, il y a sans doute plusieurs moments qui rythme notre histoire d'humanité, et qu'en même temps, c'est à tout moment. Et l'autonomie, enfin, je vous rejoins complètement dans cette distinction entre indépendance et interdépendance, pour montrer qu'on n'est jamais totalement indépendant et qu'on est toujours en interdépendance. Ce qui me semble néanmoins intéressant dans ce concept d'autonomie, j'ai perdu le fil, mais c'était quand même de... L'interdépendance, elle existe de fait par ma condition humaine et sociale. L'autonomie, elle peut être le résultat d'un devenir. Et c'est ça qui était intéressant pour moi. De penser que l'autonomie, elle peut être un but ou un principe politique et éthique qui fait qu'on va chercher ensemble à se donner les meilleures lois possibles pour pouvoir y obéir de la manière la plus juste possible. Ou que je vais chercher dans mon existence à me libérer de déterminations qui sont suivies et qui ne relèvent pas de l'interdépendance choisie, alimentée, éclairée, mais qui relèvent d'une interdépendance de l'ordre de la détermination. Ça rejoint un peu plus que ce que je traite pour le coup dans ma thèse sur le fait que cette liberté, elle n'est pas forcément première en tant que propriété, mais elle est beaucoup plus le résultat ou l'horizon de ma manière de vivre et de la manière d'orienter ma vie. Donc c'est peut-être comme ça malgré tout que je redonnerai un sens à l'autonomie, qui intègre en fait l'interdépendance. L'autonomie ne peut pas être authentique si elle ne prend pas en compte cette interdépendance qui relève de notre condition humaine et de la manière dont on investit dans son avis.
L'autonomie, c'est se donner à soi-même ses propres lois.
Oui.
Autonomos. Hein, voilà. Et donc, se donner soi-même ses propres lois, comment est-ce que l'environnement est intégré là? Alors, c'était un peu mieux.
Est-ce que vous avez entendu la question? Oui.
Comment est-ce qu'on intègre l'environnement? Oui. Pour éviter aussi l'image de l'homme maître et possesseur de lui-même et de la nature qui serait totalement apte à se donner les lois qu'il souhaite. Effectivement, alors là, je précise mon cadre de pensée qui permettra peut-être d'éclairer ce vers quoi je tends. Je réfléchis dans le cadre de la pensée de Spinoza qui est assez confrontante justement parce qu'elle pose d'emblée cette détermination à laquelle on ne peut pas échapper. On est une partie de la nature et croire qu'on est un individu libre, il vit un empire dans un empire, c'est une illusion. Et cette illusion, elle vient du fait qu'on ignore les causes. Donc on a simplement l'illusion d'être libre parce qu'on ignore ce qui nous détermine. Et donc effectivement, prendre en compte l'interdépendance, c'est prendre conscience de toutes ces causes qui nous déterminent. Et pourtant, Spinoza écrit une éthique où la liberté est un but. Pourquoi ? Et je trouve que cette question, elle mobilise. Et peut-être que cette question, elle ne vient pas tant de l'aspiration philosophique de Spinoza que, avant tout, d'une observation première de l'existence humaine qui fait qu'à un moment donné, on se demande que dois-je faire ? Comment est-ce que je détermine ma vie ? Pour qu'elle soit authentiquement humaine ou qu'elle soit pleinement libre. On a ce besoin de liberté, il n'est pas tant au plan ontologique de la nature de l'homme ou de l'explication d'un phénomène, mais je crois qu'il se joue plutôt au niveau éthique, de comment est-ce que ce concept de liberté oriente ma vie. Et du coup, en fait, il ne va pas avoir le sens d'indépendance vis-à-vis de mon environnement qui me détermine, mais il va avoir le sens de prise en compte de ce qui me détermine pour que ce que je vis ne soit pas subi, mais que je parvienne à m'investir dans ce qui me détermine. Et que donc, pour moi, c'est aussi le sens profond de l'écologie, que je sois un acteur parmi d'autres dans cet environnement, et que je ne vive pas ce qui m'arrive comme des déterminations que je subis, mais que je sois capable de m'y impliquer pour participer à ce mouvement vital pour moi et pour ce qui m'entoure. Voilà. Mais nécessaire à réinterroger, c'est sûr. Surtout qu'il est, dans le débat bioéthique, il est souvent inspiré de, notamment de Kant qui considère... Enfin, qui ne prend pas forcément en compte cette dimension de l'environnement.
Une dernière question.
Fin du jeu pour ce soir.
Merci à vous tous. Donc, prochain rendez-vous
le
15 novembre.
Ne vous trompez pas d'étage.
Oui. Voilà, vous pensez, la trésorière me rappelle tout le temps, il y a un panier à la sortie, ça vaut bien un bon film. Et puis donc, merci à vous de votre présence ce soir.
Oui,
et Marion, en tout cas, merci. C'est pas présent pour vous. Et les gens, ils ont aussi.
Ben vous l'avez un petit peu compris, je suis doctorante en philosophie et je viens de terminer à Lyon, à l'ENS de Lyon. Je viens de terminer mon contrat de 3 ans et du coup là je pars pour une 4e année pour terminer. Voilà, en donnant quelques cours et voilà.